Il dit sur, je te rappelais d'avant. Je vous ai dit que dans la Torah, on parle de deux sortes d'Atseret. Atseret de Chagamatzot, ça c'est le septième jour de Pessah. Et il y a la Atseret de Korban Pessah qui est à Shavuot. Ça l'appelle pratiquement toujours Shavuot Atseret. J'utilise que très 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 rarement le mot Shavuot. Et le Ramban dit que de la même manière qu'entre le premier jour de Pessah, donc de Chag HaMatzot, et le dernier jour, la période entre les deux, ben ça s'appelle Chol HaMoed. Donc le Chol HaMoed de Chag HaMatzot, c'est le Chol HaMoed que nous on appelle Chol HaMoed. Mais il dit que toute la Sfirata Omer, c'est le Chol HaMoed de ce Chag de Pessah, puisque c'est entre le Korban Pessah et le Korban de Shavuot. Donc, que Shavuot, c'est la Atseret de ce Korban Pessah. Donc, la période entre les deux s'appelle Chol HaMoed. Donc, pour lui, pour le Ramban, la Sfirata Omer, c'est une forme de Chol HaMoed, en quelque sorte. C'est assez intéressant. Je veux dire, il y a Chol HaMoed où les gens, où certains gens ne travaillent pas, puis après, il y a Chol HaMoed où tout le monde travaille. Mais si, non, si vous voulez faire Chol HaMoed, pendant toute la période de la Sphira, vous pouvez, c'est Ramban qui dit que c'est pour la mouette. Bon. Alors, on a vu beaucoup de choses sur cette période de Sphira Taomer. Je voulais une chose, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais le problème, c'est le décompte de la Sphira Taomer. Il commence donc le deuxième jour de Pessah. Il machorat à Pessah. Donc, en fait, le deuxième jour de la fête de Pessah commence le décompte en question. Et ce décompte en question, le Chinuch, le Sefer HaChinuch dit que c'est pour faire le lien entre Pessah et Shavuot. Bon, quelque part, il faut faire le lien entre les deux. Alors, si on y regarde d'un peu plus près, on s'aperçoit que tous les jours de la fête de Pessah sont en lien avec Shavuot, sauf le tout premier jour. Le tout premier jour, puisqu'il n'est pas inclus dans la Sfirata Omer. Donc, lui, ce premier jour, il n'est pas inclus dans le Cheshbon. Donc, lui, il n'est pas en lien direct avec Shavuot. En fait, sur Shavuot, on dit qu'on a reçu les Luchot, les premières Luchot, pardon, enfin, le matin de Torah. On a reçu la Torah, et d'une certaine manière, Chazal disent que c'est un moment, les Luchot, elles sont gravées, comme vous vous souvenez, et sur la gravure, enfin la gravure, elle est dite en termes de Charout. Gravé, ça se dit Charout. Et Charout, ça se lit aussi bien Chérout. Et Chérout, c'est la liberté. Et donc, Chazal disent, En Chérout, Ella, il n'y a de Chérout que pour celui qui a accepté la Torah. Donc, la vraie Chérout, la vraie liberté, c'est la liberté avec la Torah. Et donc, de ce fait, étant donné que Pessah s'est appelé Chag, enfin le Zman Chérouteinu, c'est le temps de notre liberté. Et donc, ce temps de la liberté, il est partagé en deux. il y a une liberté sans référence à la Torah, qui dure un jour. Et puis ensuite, il y a liberté avec une référence qui va croissant à la Torah. Et donc, les jours de Pessah, dans la liberté de Pessah, il y a deux sortes de liberté. Il y a la liberté tout court, et puis il y a la liberté liée à la Torah. Il se trouve que le jour de la semaine où tombe le premier jour de Pessah, c'est aussi le jour de la semaine où tombe Tisha B'Av. Donc il y a un lien entre Pessah et Tisha B'Av. Ils tombent tous les deux le même jour de la semaine. Ça, c'est vrai pour le premier jour. Donc ce premier jour, qui est un jour de liberté sans la Torah, c'est lié au Korban HaBayit. Donc c'est comme si on était en train de nous dire de façon allusive en tout cas, que la liberté sans la Torah, ça débouche sur la destruction. Le Beit HaMikdash, ça ne marche pas. Ce qui peut marcher, c'est une liberté avec la Torah. Donc, c'est quoi la liberté sans la Torah? Donc, ça veut dire que il y a eu un temps où la liberté, elle nous a été donnée indépendamment de la Torah. Quand on est sorti d'Égypte, on a accédé à la liberté. Mais on a accédé à la liberté, c'est une liberté par rapport à quelque chose. On s'est libéré de quelque chose. La liberté avec la Torah, ce n'est pas une liberté de quelque chose. On ne s'est pas libéré de quelque chose. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est de la vraie notion de liberté. Alors, c'est progressif. On avance. Tant qu'on est encore dans les jours de Pessah, on parle de liberté avec la Torah. Puis ensuite, on considère que c'est terminé. Quelque part, cette notion de on a en même temps Pessah et en même temps la Torah, comme si ensuite la Torah, c'est de la liberté, c'est acquis. Mais maintenant, il faut acquérir, continuer de travailler sur une autre sorte de liberté où ce qui est principal, c'est la Torah, et pas l'accent n'est pas mis sur la liberté. Et du coup, on a cette situation paradoxale qui va dire que le mot liberté, la composante liberté qu'il y a dans le don de la Torah, c'est une composante qu'on lit où? On la lit dans le fait que quand Hachem nous a donné la Torah, il a aussi écrit la Torah sur les Luchot. Et les Luchot, elles sont écrites. Toute la Torah est écrite sur les Luchot. Mais ce n'est pas seulement écrit, c'est gravé. Donc, la gravure, c'est certainement une écriture beaucoup plus écrite, plus profondément écrite que simplement l'écriture en surface. Et les Luchot, c'est encore pire parce que les Luchot, elles sont écrites de part en part. C'est-à-dire qu'en réalité, quand on dit qu'on a reçu des Luchot sur lesquels se trouve la Torah, ce n'est pas tout à fait vrai. Parce que, puisque l'écriture, elle est de part en part, il n'y a pas d'un côté un support et de l'autre une écriture. Le support, il a disparu dans l'écriture. Puisque c'est écrit de part en part, il n'y a pas séparément de support. Le support, il est là où il y a. Voilà, c'est les lettres elles-mêmes, elles ont avalé le support, si on peut parler comme ça. Curieusement, c'est donc avec la forme d'écriture ou d'inscription qui est la moins libre. Bon, parce que quand vous écrivez sur une tablette, ensuite vous pouvez effacer. Si vous gravez sur la tablette, vous pouvez éventuellement enlever une tranche dans l'épaisseur de la tablette, enlever toute trace de la gravure. Mais vous ne pouvez pas le faire si toute la tablette, toute l'écriture est indistincte par rapport au support. Donc c'est l'écriture, pour prendre le terme, c'est l'écriture la moins libre qui soit. C'est donc de cette écriture qui est devenue, qui n'est presque plus une écriture au sens habituel du terme. Bon, c'est devenu, bon, c'est une gravure, donc c'est aussi peu libre que possible. C'est de là qu'on apprend la liberté. C'est ce charout qui se lit charout. C'est un peu paradoxal que ce soit justement de là qu'on apprenne cette notion de liberté. Et on dit par là que c'est la plus grande liberté. C'est la plus grande liberté. Et comment est-ce qu'on peut comprendre? C'est une liberté, a priori c'est le contraire de ce qu'on entend d'habitude par liberté. Mais ce qu'on entend d'habitude par liberté, pour beaucoup de personnes, c'est comme si on parlait de la liberté de faire n'importe quoi. Et bien évidemment, c'est pas de ça qu'il s'agit. Même en sortant d'Égypte, c'était pas pour faire n'importe quoi. Mais l'important dans la sortie d'Égypte, c'était de se libérer de l'esclavage. Mais la liberté, c'est pas la libération de l'esclavage. Mais qu'est-ce que c'est la liberté? C'est quoi la liberté? Zman cheruteinu. Mais si la liberté elle est telle qu'on l'a décrite, c'est la liberté avec la Torah, c'est une liberté qui est très fortement limitée, si on peut parler comme ça. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a un énorme nombre de contraintes, 613 contraintes, mais qui sont, chacune c'est en fait un monde de contraintes, et c'est ça qui nous permet d'être libres. C'est la liberté de quoi qu'on a grâce à la Torah? Bon, c'est bien, c'est joli de dire c'est la liberté, mais c'est la liberté de quoi? C'est quoi le contenu du mot liberté là-bas? Enfin, dans cette situation-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous suggérez?
Est-ce qu'il y aura un rapport peut-être avec le caractère infini de la Torah? C'est qu'on rentre dans un système où, non limitatif du fait de sa...
C'est la Torah qui est non limitative. Mais au contraire, si tu dis qu'elle est encore plus présente que, qu'on peut s'imaginer. Alors, quelle part de liberté est-ce qu'il reste à l'homme? Il y a des choses qui s'imposent à faire, des choses qu'il ne faut pas faire, etc. Plein de choses. Et c'est beaucoup de choses parce que ça, la Torah, elle parle de toutes les situations de la vie, pratiquement. Et dans toutes les situations, on te dit, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire, mais c'est, et pas comme ça. Où elle est la part de liberté là-dedans?
On oppose Eved Hachem à être Eved des d'autres hommes.
Oui. Et donc?
Ben, quand on est Eved d'un homme, c'est clair qu'on n'est pas libre. Après, quand on est Eved Hachem,
Ou est-ce qu'on est libre?
est-ce qu'on est libre? C'est la question.
Voilà, très bien, c'est la question.
Ça nous libère d'être l'aide de l'homme, du coup.
Voilà, ça c'est une très bonne chose. Effectivement, on n'est pas, on n'est plus évêque de quelqu'un d'autre, mais on est néanmoins toujours évêque d'Hachem. On a été créé pour servir Hachem. On a été créé pour révéler Hachem au monde. Où elle est notre liberté, en fait. C'est-à-dire, on peut comprendre assez bien, par exemple, que quand il y a des contraintes, ça aide à la création. On est plus créatif parce qu'il y a des contraintes. Tous les artistes se donnent toujours des contraintes, que ce soit en musique, dans tous les arts, on se donne un certain nombre de contraintes et on essaie de s'exprimer à l'intérieur, d'exprimer ce qu'on a envie d'exprimer à l'intérieur de ces contraintes. Donc là, la liberté ici, c'est donc une liberté de s'exprimer totalement à l'intérieur de contraintes. Mais alors, on n'est pas complètement libre puisqu'il y a ces contraintes qui m'empêchent de faire certaines choses. Alors, c'est un peu compliqué parce que on est obligé, si je comprends bien, on est obligé de considérer que ces contraintes que sont les mitzvot, on les voit comme on peut les voir comme des contraintes, mais on peut aussi les voir comme des moyens de. Prenons par exemple les mitzvot assez d'abord. Oui. C'est quoi une mitzvot assez? On vient de faire de pratiquer la mitzvah de Achilat Matzah, par exemple. OK. C'est quoi la mitzvah d'Achilat Matzah? Qu'est-ce que je fais en pratiquant la mitzvah d'Achilat Matzah? Je fais une mitzvah. En tout cas, même si je ne m'intéresse que à la mitzvah d'Achilat Matzah du soir du Seder. Alors, on a mangé de la matzah et on a expliqué ce qu'on était en train de faire avec cette matzah. Alors, est-ce que ce qu'on faisait, c'est vraiment un acte de liberté? On faisait en mangeant de la matzah, c'est un acte de liberté? On a dit sur cette matzah, par exemple, que c'est une matza qui, que la matza c'était une, c'était donc quelque chose qui faisait référence à l'impensable, et l'impensable c'est ultimement le Ichud Hashem. Donc ça veut dire que la Torah, elle m'a donné une mitzvah de, d'essayer de vivre, de rendre aussi concrète que possible cette notion de, d'impensable, c'est-à-dire cette notion de Yichud Hashem. Donc ça veut dire que la mitzvah, en quelque sorte ici, elle ne vient pas me limiter quelque chose. Elle vient m'ouvrir un horizon. Elle m'ouvre à une réflexion, donc à une liberté de penser. Je suis invité à penser le Yichud Hashem. Ça, c'est les mitzvot positives. Quand à Loulav, on est invité à penser, d'une part, à l'importance de, du Klal Israël lui-même, le fait qu'il y a une importance du Klal Israël, que tous les éléments du Klal Israël sont fondamentaux, y compris ceux dont on pourrait penser qu'ils n'apportent pas grand-chose. Mais en même temps, ça nous met en face d'une, des responsabilités, puisque comme Rashi dit, ça ouvre sur une responsabilité sur la météo, disons, sur les vents et les pluies. Donc, est-ce que c'est une contrainte? Oui, on peut dire que c'est une contrainte dans la mesure où, quelque part, je comprends que mes actes ont un impact sur la météo, disons. Que mes actes ont un impact sur la reconnaissance de l'unité, l'unicité d'Hachem dans le monde. Et donc, ma liberté, elle s'ouvre sur des, d'énormes responsabilités, et une liberté, ça veut dire, en fait, je peux faire ou ne pas faire. Ce que je peux faire, c'est très, très grand. Est-ce que je peux ne pas faire? Alors, dans certains cas, c'est j'ai raté une occasion, c'est moi qui, pas, qui n'ai pas utilisé l'occasion qui m'est faite de, d'être totalement libre, de me, que, m'occuper de choses dont on ne pourrait même pas penser que je puisse m'en occuper. Disons, ça c'est un peu pour les mitzvot positives. Et les, si on regarde des mitzvot négatives, alors, l'idée que, par exemple, dans la parasha cette semaine, on va dire, tu n'as pas le droit de te venger. D'accord? Alors, c'est, où est-ce qu'il y a de la liberté dans le fait de ne pas avoir le droit de se venger?
On se libère de nos instincts?
Pardon?
On se libère. On se libère de nos instincts.
Alors, il y a une liberté par rapport effectivement à dire un instinct. Effectivement, on peut dire la Torah nous invite fortement, puisqu'elle nous met un interdit. Elle dit, je ne veux pas que tu te conduises de cette manière-là. Pourquoi? Parce que si tu te conduis de cette manière-là, alors tu casses une relation que tu n'as pas de raison de casser. Si lui il se conduit pas comme il faut, éventuellement il est, il peut y avoir une façon de l'aider en lui faisant une tochacha. Encore qu'il faut savoir, la tochacha c'est pas la rancune, c'est pas, je te prête ma hache bien que tu m'aies pas prêté la tondeuse à gazon que je t'ai demandé hier. Ça, c'est un, ça, c'est l'oticorbe et l'otitome. Tu peux pas lui garder rancune. D'accord. Donc, quelque part, ça m'ouvre. Ça me dit, mais t'en vas pas dans ce, ne va pas dans cette direction-là. cette direction, elle ferme, c'est des directions de mort en réalité. Ici, la liberté, je crois, c'est la liberté de vie, ça veut dire, c'est la liberté de vivre pleinement, complètement, en m'occupant de ce qui me concerne, et pas de ce qui concerne l'autre, sauf si c'est pour l'aider. Et pas, je ne suis pas en train de mesurer toutes les choses. Donc, je crois que c'est ça, c'est cette liberté-là, c'est de cette liberté-là dont on dit que la vraie liberté, c'est celle qui va avec la Torah. Que la Torah m'ouvre des horizons de pensée et aussi d'action et de responsabilité qui font que je suis véritablement un homme libre. Un homme libre, c'est un homme dans le monde dans lequel on est. Un homme libre, c'est quelqu'un qui est totalement responsable. Si on n'est pas responsable, alors on n'est même pas un homme. Il manque une dimension. La liberté, ce n'est pas d'agir de façon irresponsable. Donc, en fait, ce que je voudrais remarquer ici, c'est que la liberté, elle a été acquise en deux temps. Il y a un temps de liberté sans Torah, premier jour de Pessah, et ensuite c'est les jours de liberté avec Torah. Cette idée que les choses s'acquièrent en deux temps, c'est quelque chose qui a l'air, c'est une question que j'ai probablement déjà soulevé parce que ça fait longtemps que ça me trotte dans la tête. Je vous ai dit, durant la période de la Sfirat HaOmer, c'est-à-dire la période du Omer que les Bnei Israël ont vécu, durant cette période-là, ils ont expérimenté Mara. Vous vous souvenez, Mara? Mara, c'est bon, le problème de l'eau amère, mais c'est le problème des mitzvot. Ils ont reçu 10 mitzvot là-bas. Et on avait fait remarquer que ça voulait dire que quand on arrive au Sinaï et qu'on reçoit des mitzvot, c'est pas nouveau. Donc là aussi, le don des mitzvot, ça s'est fait en deux temps. Un temps, une dizaine de mitzvot, mais donc parmi les mitzvot les plus importantes, et ensuite, un deuxième temps, la totalité. La création du monde, enfin, la création de Klal Israël, pardon, elle se fait aussi en deux temps. Le temps d'Abraham et le temps de la sortie d'Égypte. On peut dire la sortie d'Égypte elle-même, elle se fait aussi en deux temps. On sort d'Égypte et on passe la mer. Donc on n'a pas passé la mer, on n'est pas sorti de l'emprise égyptienne. Cette idée des choses qui se font en deux temps. Pourquoi c'est comme ça? Visiblement, ça doit se faire comme ça. Pour nous, la parole d'Hachem, dans les Sfarim, c'est écrit que les Aseret Adibrot, elles ont à voir avec les Asara Ma'amarot. Il y a eu 10 paroles avec lesquelles le monde a été créé. 10 paroles divines. Mais ces paroles divines, elles ne s'adressent à personne. C'est des paroles où Hachem a donné les ordres. Qui est de la lumière, qui est ceci, qui est cela, etc. Là, cette parole divine, C'est ce qui donne l'énergie à toute chose qui a été créée. L'énergie, la vie, etc. Tout ça, ça vient du fait que Hachem a parlé, mais quand Hachem parle, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas un temps de la réflexion, de la décision, puis ensuite la parole. Bon. Hachem, il pense, il parle et il agit, c'est tout la même chose. C'est du 1. Pour nous, les Sfarim disent que les paroles d'Hachem qui sont dans la matière, dans le monde, il faut travailler avec la Torah pour les extraire en quelque sorte. Mais on va les extraire, c'est-à-dire on va faire parler le monde. Le monde va parler d'Hachem en quelque sorte. Hachamaim mesaprim kvodkel. Les cieux racontent la gloire divine. C'est-à-dire, tout parle d'Hachem. Mais il faut apprendre à entendre. Mais d'une certaine manière, la Sereta Dibrot, c'est un deuxième temps. Parce qu'à ce moment-là, ce n'est plus une parole d'Hachem seulement, mais c'est une parole d'Hachem adressée à. Elle est adressée au clan Israël. Hachem nous a d'abord installés dans la posture d'un interlocuteur, d'un récepteur de la parole divine. Puis ensuite, il nous a parlé. Donc, cette liberté qu'il nous a donnée, c'est une liberté de pouvoir entendre la parole d'Hachem. On est sorti d'Égypte, et puis on a fait un travail pour recevoir la Torah, c'est-à-dire pour pouvoir recevoir la parole d'Hachem. Et c'est ça le lien. Bon, il s'agit de se fabriquer, d'être libre pour pouvoir entendre la parole d'Hachem. Ce qui pourrait nous empêcher d'entendre la parole d'Hachem, c'est quoi? C'est justement, par exemple, tout ce qui jouerait le rôle d'une espèce de chatzitsa, d'écran, entre Hachem et nous. Alors, par exemple, il y avait un problème de Mila. La Mila, c'était une condition sine qua non pour sortir d'Égypte, parce que si on ne sortait pas d'Égypte, si on ne faisait pas la Mila, on ne pouvait pas manger le Korban Pessah. Donc, on ne pouvait pas accéder à la proclamation du Yehud Hashem, d'accord, cette reconnaissance du Yehud Hashem qu'il y a dans le Korban Pessah, comme on a dit que dans le Korban Pessah, on entend le Yehud, d'accord, dans toutes les halachot, comme le Maharal l'a dit. Et donc, on est capable d'entendre la parole d'Hachem. Et bon, alors, on a enlevé l'écran, en quelque sorte, et ensuite, il faut se qualifier. Et ça, c'est le travail le travail des 49 jours, où il faut à la fois s'arracher à la négativité du moins 49 et accéder au plus 49. Progressivement, un double travail de sourd mérav à Asetov, si vous voulez. Donc là aussi, la parole divine, elle nous arrive en deux temps. Elle arrive d'une part sous la forme des Asara Ma'amarot, et puis ensuite, elle nous parle. Donc la parole, elle existe dans le monde, puis ensuite, elle va se concentrer sur le clan Israël. Parce qu'Hachem nous a fabriqués de telle sorte que nous soyons capables d'entendre la parole d'Hachem. C'est ça l'acceptation de la Torah. Mais maintenant, le grand problème d'acceptation de la Torah, ce n'était pas sur la Torah écrite, c'était sur la Torah orale. Or, la Torah orale, elle aussi, on l'a acceptée en deux temps. Un premier temps, un matin de Torah sous la contrainte et un deuxième temps à Purim sans la contrainte. Donc, les mitzvot, la Kabbalat Torah, elles aussi, ça se fait en deux temps. Je crois, je n'ai pas trouvé de preuves encore, mais je crois que ça vient à la chose suivante. Quand Akadosh Baruch Hu a créé Adam Arishon, en tout cas dans la version qui semble qu'il ait créé un seul être, et ensuite Hachem a dit non, le un ça marche pas, il faut qu'il soit deux. Parce que s'il n'y en a qu'un, il va être pris pour Dieu. Un, c'est Hachem. Et donc nous, on est dans le monde du deux. On est dans le monde du deux, on est dans le monde du Zahar, au Nekeva, la création d'un couple, du deux. Hachem a créé du deux. Pourquoi? Parce que, comme il dit, Hachem a dit, mais si Adam est tout seul dans le monde d'en bas et moi je suis tout seul dans le monde d'en haut, les gens vont penser, les anges vont penser, je sais pas quoi, que lui il est un dieu d'en bas et moi je suis le dieu d'en haut. Donc, Kenegdo. Je vais faire Kenegdo, c'est-à-dire je vais fabriquer du deux. Et donc, nous sommes dans le monde du deux. Notre Emouna, c'est que la vérité, c'est que Hachem est Echad. Mais dans le monde dans lequel nous sommes, on n'expérimente que du deux. On n'expérimente pas le un. C'est notre Emouna. Ce n'est pas un fait d'expérience. Le monde dans lequel nous sommes est un monde du deux. En vérité, même le Beth Amikdash, en réalité, il est en deux temps. Parce que le deuxième Beth Amikdash, ce n'est pas vraiment un Beth Amikdash. Quand on parle du Beth Amikdash, dans les textes, on parle du Rishon et du Acharon. On ne parle jamais de trois. Parce que le deuxième, c'était une pâle copie. Il y a le premier Beth Amikdash, et puis après, il y a le Beth Amikdash de la fin. Le monde du un, c'est le monde dans lequel on reconnaîtra Hachem. Bayom ahou yé Hachem echad, ushmo echad. Mais jusque-là, on est dans le monde du deux. Lorsqu'on apporte le korban du Homer, alors, il y a le Homer, il apparaît comme un matir. Il vient permettre quelque chose. Le Homer, il permet le Hadash, il permet la nouvelle récolte. Il permet d'apporter des korbanot et de manger, pas des korbanot, pardon. Il permet de manger des matzot, la fête avec la nouvelle récolte. Quand? Qu'on a apporté le Homer. Aujourd'hui, on n'a pas le Homer. Donc, les Chachamim ont fait en vérité, on pourrait, dès le matin, considérer que s'il y avait eu des Kohanim, ils sont Zrizim, donc ils auraient amené le Korban le matin. Donc, on pourrait manger de la nouvelle récolte le 16. Et les Chachamim ont dit que non. On ne peut en manger que le 17, Nissan. Donc, nous pouvons manger, grâce au fait qu'on a apporté le corban, ou bien qu'on aurait pu apporter le corban, ou bien qu'on a décidé que c'est comme si, puisque maintenant on n'apporte plus de corbanote, donc on a attendu le même temps, à partir du Homer. C'est-à-dire à partir du moment où on a fait la première démarche, en quelque sorte, de Corban où le corban est encore une nourriture animale, pas très sophistiquée, etc. Mais on ne peut toujours pas apporter de la nouvelle récolte au Beth Amikdash. Beth Amikdash, si on veut apporter des menachot, par exemple, pour l'Agba Omer, vous voulez apporter des menachot au Beth Amikdash, vous ne pouvez pas, avec la nouvelle récolte. Elle est dans les magasins, mais vous ne pouvez pas l'utiliser pour apporter des, pour faire des menachot. Pour ça, vous allez devoir attendre l'autre mincha chadasha, c'est-à-dire l'Eshté Alechem. Quand on aura amené l'Eshté Alechem, le korban de Shavuot, alors, à partir de là, on pourra aussi utiliser la nouvelle récolte pour le Mizbeach, pour les korbanot, pour les chalot matzot, pour enfin, tout ce qu'on fait avec la farine. On pourra utiliser la nouvelle farine sur le Mizbeach. Donc, les deux sont à matière. Donc là, de nouveau aussi, la nouvelle récolte, elle est permise en deux temps. Un premier temps pour le profane, si on veut, et un deuxième temps pour le plus élevé. Donc c'est aussi de l'ordre du 2. Il y a un problème sur lequel il faudrait peut-être encore réfléchir. C'est dans cette période-là de Kibbat Pessah à Shavuot, je vous ai dit, on a expérimenté trois choses. Le passage de la mer, qui est le deuxième élément de la sortie d'Égypte. On a expérimenté Mara, qui est le premier élément de mitzvot, qui culmine avec celle du 613 de la Torah, du Sinaï. Mais il y a aussi la guerre contre Amalek. Et la guerre contre Amalek, elle est présentée comme étant Milchama al Hashem ba Amalek midor dor. C'est-à-dire, la première guerre contre Amalek, elle est là, à ce moment-là, mais c'est aussi en deux temps. Il n'y a qu'à la fin des temps qu'on va éradiquer complètement Amalek. Parce qu'Hachem a une guerre contre Amalek qui ne finira qu'à la fin des temps. Donc la guerre, elle aussi, elle se fait en deux temps. Ce qui ne m'est pas très très clair, en fait, peut-être que vous avez des lumières là-dessus, je m'étais demandé pourquoi la guerre joue un rôle tellement important. Bon, c'est Mara, je comprends. Kriyat Yam Souf, je comprends aussi. Mais la guerre, pourquoi c'est tellement important? Très important la guerre, parce que les rois, dans le Rambam, les chapitres qui sont consacrés aux rois d'Israël, s'appellent. C'est des chapitres concernant les rois et leur guerre. Donc, le roi et guerre, ça va ensemble. Comme si l'essentiel de ce que faisaient les rois, c'était la guerre. Alors, peut-être que c'est vrai, hein, je ne sais pas. Mais, premièrement, ce n'est pas si facile que ça à comprendre, parce que c'est vrai que les rois pouvaient faire la guerre, mais ils ne pouvaient faire la guerre qu'avec l'accord du Sanhédrin. Donc, ultimement, ils ne sont pas libres de faire la guerre, s'ils veulent vivre selon la Torah. Il faut demander l'accord du Sanhédrin. Bon, admettons que, bon, cet accord, c'est technique, ou je ne sais pas. Mais bon, c'est très important, visiblement, la guerre. D'ailleurs, quand le Rambam décrit le Mashiach, il dit... Quand il aura fait les guerres d'Hachem, c'est un des critères pour savoir s'il va être Si le candidat Mashiach, est-ce qu'il est vraiment Mashiach? Il faut qu'il fasse les guerres de Hachem. Guerre d'Hachem, ça veut dire. C'est quoi les guerres d'Hachem? Qu'est-ce que Hachem a besoin de faire une guerre? Il fait une guerre contre Amalek, c'est ça? Il a une guerre contre Amalek. Et donc là, on voit l'importance de la guerre, mais je ne sais pas vraiment pourquoi c'est tellement important. C'est vrai que dans le... Je ne sais pas si avec ça, pour l'instant, ça ne m'aide pas beaucoup, mais dans le mot Milchama, vous avez le Lechem, qui est le pain, vous avez le Chalom, qui est le rêve, tout ça dans ce mot Milchama. D'accord, c'est... Alors, est-ce que ça nous dit quelque chose? Moi, pour l'instant, je n'ai pas vraiment une solution. Non. Visiblement, ça joue un rôle très important. La guerre. En fait, nous, on parle de guerre. Et quand on parle de la guerre, c'est présenté comme Milchamta shel Torah, la guerre de la Torah. Mais la guerre de la Torah, ce n'est pas pour imposer la Torah aux gens, c'est pour arriver à accéder au maximum à ce que la Torah peut nous dire, en quelque sorte. C'est-à-dire à augmenter la Torah. C'est ça la guerre de la Torah. En vérité, cette histoire du 2, on peut la mettre en rapport, puisque c'est en fait j'aurais dû faire court sur le Chumash. La parasha de Kedoshim, elle peut aussi s'entendre comme un deuxième temps. Parce que dans la parasha de Kedoshim, la Torah ne nous donne pas des nouvelles mitzvot. Mais elle nous dit que, voilà, il y a des mitzvot qui jouent un rôle fondamental. D'accord? Donc, elle nous donne un sens à certaines mitzvot qui nous permettent de comprendre comment ces mitzvot ont à voir avec la Kedusha, la mitzvah de Kibud Av Va'em, ou de Yira ou de Kavod. C'est la première chose qui est dite là dans la parasha de cette semaine. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Ben, on nous dit justement là, ici, il y a pourquoi c'est tellement important les relations avec les parents. C'est très important parce que les parents sont les associés d'Hachem dans la création de l'homme. Et Hachem dit, si on traite les parents comme ils doivent être traités, c'est comme si moi j'avais été honoré et craint, moi directement. Donc quelque part, ce qu'on fait pour les parents, il faut l'entendre, on le fait parce qu'ils sont les associés d'Hachem. Et cette notion d'associé d'Hachem, ça veut dire, du coup, ça veut dire les mitzvot que je t'ai déjà donnés. Moi, je t'ai donné les mitzvot, et maintenant, je veux que tu reviennes sur ces mitzvot et que tu les fasses dans un esprit de Kedusha. Comme si, voilà, il y a les mitzvot, mais la latitude, mais pour faire les mitzvot, on peut les faire de toutes sortes de façons, et je veux que tu les fasses. C'est impératif, c'est pas pour le Kohen Gadol ou le Gadol Ador seulement, c'est pour tout le monde. Tout le monde est astreint à faire les mitzvot dans un esprit de Kedusha. C'est ça que je veux de votre part, dit Hachem. Et là, on voit quelque chose d'assez surprenant. Parce que si vous regardez ce qui se passe dans le texte, justement, si vous avez un Chumash, ouvrez le Chumash, donc de Shim, immédiatement après Kibbouda Vahem, après la Yira de la mère et du père, d'accord, avec la limitation du pouvoir, enfin, dans la hiérarchie, la limitation c'est Shabbat, qui s'impose à tout le monde, aux parents comme aux enfants. Et puis, juste après, quel sujet on parle? Sujet Altifnu Ela Elilim. Veloem Asecha. C'est-à-dire, ne vous tournez pas vers les idoles et ne fabriquez pas d'idoles de métal à Niachen. C'est-à-dire, Rachid dit. Pourquoi il vient tout de suite cette ne vous tournez pas vers les idoles, Rachid dit, ne faites pas des nouveaux dieux, des faux dieux. On a l'impression que il y a comme un risque, puisqu'on a dit que les parents sont les associés d'Hachem, donc on leur donne une dimension presque divine, nos parents, dans cette affaire-là. Donc on a l'impression que la Torah dit, attention, hein, ça ne va pas plus loin que ça. Pas d'autres faux dieux. Hein. Les parents ne sont pas des dieux non plus, bien qu'ils soient associés à Hachem. Mais surtout, n'ajoutez pas des faux dieux. Il faudrait que ce soit juste écrit juste à côté, juste après en fait, comme si on a touché un domaine un peu dangereux ici en donnant une telle dimension aux parents. Il faut faire attention que... Bon, que ça, on n'essaye pas de faire autre chose, d'étendre le domaine des associés de l'Hachem, etc. Là aussi, c'est toujours la même histoire. C'est-à-dire, on va jusqu'à, par exemple, tu ne feras pas des dieux de métal. Pourquoi on parle des dieux de métal? Mais les dieux de pierre et de bois, c'est permis? Bien sûr que non. Mais le métal non plus, c'est pas permis. Est-ce que le métal ici, ça fait référence au veau d'or, qui lui est un métal, comme vous savez bien? Ou bien simplement, quand c'est les dieux de métal, on sait bien que les dieux de métal en question, ils ont été fabriqués par les hommes. Donc quelque part, on voit bien que ça ne peut pas vraiment représenter les divinités. Compliqué. La trace humaine, elle est trop forte là-dedans. Donc on pourrait dire, bon, dans ce cas-là, on peut faire si les gens qui sont assez bêtes pour adorer des dieux de métal, pas du tout. La Torah dit, non seulement tu n'as pas le droit d'en fabriquer, mais même pas pour les autres, qui sont de toute manière idolâtres, et les autres, ils ne peuvent pas en faire pour toi non plus. Donc, en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a de nouveau à l'œuvre, sous forme de Kedusha, le 2. Le 2 qui est de nouveau à l'œuvre, ici. Donc, dans cette construction que représente la Sfirat HaOmer, on compte les jours et on compte les semaines. Bon, alors il y a des discussions pour savoir si la mitzvah de Sfirat HaOmer est midoraita ou des rabbanan. Et puis il y a une opinion qui dit que le décompte des jours, il est mina Torah. Et le décompte des semaines, il est mis des rabbanan. Certains veulent dire que dans la, a priori, c'est une chita particulière qu'il faut, c'est une chita d'un certain Rabbeinu Yerucham, c'est une autorité très importante du Moyen-Âge. C'est pas très clair, effectivement, pourquoi les jours et Les Ashkenazim, quand ils comptent l'Omer, ils disent aujourd'hui c'est temps et temps de jours qui sont temps et temps de semaine et de jours dans l'Omer. Dans le Moussar Sfarad, on dit qu'aujourd'hui c'est temps et temps de jours dans l'Omer qui sont temps et temps de semaine et de jours. Donc ils mettent le mot Omer dans l'Omer après les jours. Certains veulent dire qu'il y a là quelque chose comme si la véritable Sfirat HaOmer, c'était les jours. Comme le Rabbi Nou Yoham qui dit, la vraie Sfirat HaOmer dans Doraita, c'est les jours. Les semaines, c'est Midera Banane. Et ce n'est pas que tous les Sfarnis pensent comme Rabbi Nou Yoham, pas du tout. Mais bon, il s'agit de savoir pourquoi on met, pourquoi mettre le temps et temps de jours dans l'Omer, après les jours, et pas après les semaines, si ensuite il faut compter les semaines aussi. Il compte aussi les semaines, mais seulement en dehors, c'est pas dit dans l'Omer, quoi. Temps et temps de jours dans l'Omer, qui sont temps et temps de semaines et de jours. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que la Sfirat HaOmer, c'est une mitzvah en soi? Ou bien est-ce que la Sfirat HaOmer, c'est simplement un lien qu'on a voulu établir entre Pessah et Shavuot? Ce n'est pas une mitzvah en soi. Ça change quoi que ce soit une mitzvah en soi? Ou bien une mitzvah des Rabbanan. Ça veut dire que si c'est une mitzvah en soi, quelque part, ça met l'accent sur l'importance de chaque jour. Il y a un jour et une semaine d'ailleurs, mais bon, il y a une mitzvah, c'est en soi une mitzvah, on pourrait presque dire indépendamment de Pessah et Shavuot, on pourrait très bien dire d'ailleurs que ça, l'essentiel, c'est le décompte lui-même, le fait que ça fasse un lien, c'est d'un en plus. Il y a une mitzvah de compter. Dans certains cas, il y a des mitzvahs de compter pour la tahara, pour la pureté, etc. C'est on compte les jours, c'est il faut prendre conscience des jours qui passent. Ce n'est pas au service du lien, si vous voulez. Prendre conscience des jours qui passent. Donc, dans cette Sfirat HaOmer qui nous fait passer de la fameuse nourriture animale à la nourriture humaine, de quelque chose de très peu sophistiqué et ensuite d'assez sophistiqué puisque on fabrique du pain. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le Homer, en réalité, c'est une mesure. Homer, c'est une mesure. Donc, ça n'a strictement aucun sens de dire compter l'Omer. D'accord, c'est un raccourci pour dire il y a une mitzvah de Sfira de la période qui commence avec l'approche du Korban Omer. Maintenant, il y a une chose remarquable. Ce Omer, cette quantité de... C'est un volume, bien sûr, le Omer. C'est un peu moins que 43 betsim, que 43 œufs. Mais c'est le shiur chala. C'est le shiur à partir duquel on doit prendre la chala. Et donc, il y a donc un lien entre cette notion de Homer et la notion de chala. on apporte un korban qui est la challah, qui est le, qui est pas la challah, mais qui est le volume de la challah, qui a donc à voir avec la challah. On n'a pas fait une pâte sans En tout cas, c'est le fait que cela ait à voir avec la challah. Vous savez, la challah, c'est à la fois, c'est appelé aussi trouma, c'est un prélèvement. Donc, si c'est, on met ça en rapport avec la notion de challah, le rapport, il est pour l'instant dans la notion de shiur seulement, hein, mais si on le met en rapport avec la notion de challah, ça veut dire qu'il y a une notion de prélèvement. C'est-à-dire que on apporte, on commence le décompte avec un prélèvement. Le prélèvement standard de la nourriture, c'est le prélèvement de la challah, c'est-à-dire a priori du pain, quoi. Donc c'est comme si on avait prélevé sur les récoltes. Alors c'est pas comme ça qu'on prélève la challah, mais on a prélevé, on est allé couper pour le korban omer, on est allé couper yom tov, on est allé couper le éventuellement shabbat, couper le omer, et donc on a prélevé. Un prélèvement de la nourriture, un prélèvement sur la terre, en fait. Directement sur la terre. Comme si la terre était une grande pâte dont on a prélevé, en quelque sorte, une challah. Et à partir du moment où on a prélevé la challah, qu'est-ce qu'on fait avec la challah? La challah, normalement, on la donne au Kohen. Donc, quelque part, c'est la nourriture de ceux qui sont en service, qui vont servir Hachem. Alors, on n'a pas encore de gens qui font le job à ce moment-là. Donc, on donne directement ce korban directement à Hachem, qui a cette. On apporte ce korban-là, sur lequel on va prélever, comme toujours. Pour mettre un peu sur le misbéar, etc. Donc, dans le prélèvement, dans la terouma, qui est dans Hala, c'est une élévation. C'est un prélèvement, une élévation. Donc, on commence à élever les choses. Il faut commencer par élever quelque chose qui est en rapport avec cette notion d'élévation. Et quand on a un peu élevé, on peut commencer à compter l'élévation, quoi. C'est-à-dire, à partir du moment où tu fais un geste d'élévation, qui correspond de loin, pas sans lointaine, à un problème d'élévation, tu peux commencer à compter, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de s'élever de la condition animale à la condition humaine, la condition d'esclave qui vient d'être libéré à la condition de quelqu'un qui est totalement libre. Tellement libre qu'il est capable d'entendre la parole de Hachem. Alors, c'est ça. Il y a donc un travail d'élévation pour pouvoir le faire. Pour pouvoir démarrer, il faut s'arracher en quelque sorte. Sinon, on ne peut pas commencer à compter, voilà, je vais m'élever, mais si tu n'as pas commencé le geste d'élévation, alors tu pédales dans la semoule. Je veux dire, ça avance pas. Ça ne s'élève pas. Donc là, la Sfirat Omer, elle nous fait passer par toutes sortes d'étapes qui ne sont pas précisées. Il y a les kabbalistes qui te disent comment, par quelles étapes on passe, mais dans la Torah, Alpi Pshat, simplement, c'est simplement fait pour se rapprocher, montrer qu'on a envie de se rapprocher d'Hachem. quand on fait ce travail d'élévation, on veut au moins, certain, donc comme je l'ai dit, on veut être conscient de chaque jour, se demander, pour vérifier que chaque jour, on a fait le travail qu'il fallait faire. C'est-à-dire pas se laisser pas dire, voilà, j'ai tel et tel travail, mais je le ferai 2 jours avant, etc. Non, non. Il faut prendre chaque jour et faire le travail de chaque jour, en fait. C'est comme ça qu'on ne peut pas sauter les étapes et ensuite essayer de les rattraper en marche forcée, etc. Il faut utiliser les marches telles qu'elles existent. Il y a une cinquantaine, 49 marches, il faut les passer toutes. Alors, ce qui est intéressant, enfin, je vais peut-être juste revenir un peu là-dessus, si j'ai encore le temps, ouais, que l'idée que on passe d'un matir à un autre matir, le Homer comme le Shtei Alechem sont des matirim. C'est quelque chose, quand on a un matir, c'est que la chose en elle-même est au service de quelque chose d'autre, elle permet autre chose. On a vu, ça permet la nouvelle récolte. Alors, à deux niveaux, comme toujours, ça permet la nouvelle récolte. Ça veut dire que tout ce qu'on a fait, tant qu'on est, enfin, tous les matzot qu'on a mangés avec le Korban Pessah, si vous voulez, ces matzot, elles sont avec l'ancienne farine. Donc, il s'agit bien d'un compte. Je vous ai dit que il fallait considérer que le Pessah, c'est une fermeture, parce que c'est analogue à Shabbat, de ce point de vue-là. Il y a cette notion de fermeture. Alors, c'est fermé, on ferme, et on ferme en utilisant encore les choses de l'ancien monde, en quelque sorte, de l'ancienne farine, en fait. On ne peut pas couper avec le passé, avec du nouveau, parce que si tu mets le nouveau dans le passé, il sera plus nouveau, quoi. Faut bien séparer les choses. Que le Korban Pessah soit appelé Shabbat, vous l'avez expliqué. On peut aussi dire la chose suivante, qu'il y a il y a une grande différence, si vous voulez, entre, je vous ai dit la différence qu'il y avait entre Shabbat et Yom Tov, du point de vue de la fermeture, l'ouverture, du point de vue social, quoi, du point de vue. Maintenant, on peut dire quelque chose d'un peu, peut-être un peu plus profond. Le Shabbat, c'est pas un truc spécial juif, quoi. Un Shabbat, Hachem nous a donné le Shabbat. Mais on n'est pas spécialement associé au Shabbat. Les Yamim Tovim, ils n'existent que s'il y a des Juifs. Parce qu'il faut comprendre la chose suivante. Shabbat, ça revient régulièrement. Nous, les hommes, ils sont pour rien. C'est Hachem qui a fait le Shabbat. Et ensuite, il nous a fait un cadeau. Il a dit, vous allez vous occuper du Shabbat. Les Yamim Tovim, c'est complètement différent. Pourquoi est-ce que, si on vous demande, pourquoi est-ce qu'on fait Pessah et pourquoi est-ce qu'on fait Shavuot, pourquoi on fait Sukkot, Kippour, Rosh Hashanah, c'est un petit peu plus compliqué. Mais pourquoi on fait ça? Qu'est-ce que vous répondez? Si vous répondiez, vous pourriez répondre, par exemple.
C'est pas, ça. C'est-à-dire que là, je m'en fous.
Oui, mais pardon de... Non. Oui, mais c'est... Ouais, mais c'est pas comme ça exactement. Parce que le tzivou d'Hachem, c'est de dire que on va faire Pessah le 15, et Sukkot le 15, et Kippour le 10. D'accord? Dans le calendrier. Mais ce calendrier-là, il existe comment ce calendrier? C'est le calendrier qu'on a reçu à Chodesh Hazelachem. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le calendrier lui-même, et donc les Yamim Tovim, ils existent parce que il y a un Bet Din qui a décidé, qui a proclamé le nouveau mois est commencé. Il y a pas, le calendrier ne revient pas de façon automatique. Et quand ils se sont rendus compte qu'on ne pouvait plus être Mekadesh Alpiria, alors avec ce Hillel Hacheni là, ils ont été, le Bet Din de l'époque, il a été Mekadesh tous les rochers Chodashim jusqu'à l'an 6000. Quoi 6000? Parce qu'a priori, ils pensaient que le Mashiach serait là d'ici là. Mais la formule qu'ils ont, elle va jusqu'à 15 000, jusqu'à 150 000, elle n'est pas limitée. Mais ils n'ont pas été Mekadesh plus que ça. S'il n'y a pas de Kiddush HaChodesh, il n'y a pas de nouveau mois. S'il n'y a pas de nouveau mois, il n'y a pas de Yom Tov. Ça veut dire, si on veut le dire comme ça, ça veut dire que si le Mashiach ne vient pas d'ici 6 000 ans, d'ici l'an 6000 plutôt. Oui. Et il n'y aura plus Yom Tov. Parce qu'il n'y a pas de Kdushat à Chodesh. Donc il n'y a pas de calendrier. Notre calendrier, il marche parce que en son temps, au moment où ils ont établi ce calendrier, ils ont été Mekadesh. Eux qui en avaient le pouvoir, ils ont été Mekadesh. S'il n'y a pas de Kiddush HaChodesh, il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas de calendrier. S'il n'y a pas de calendrier, ça n'existe pas le 15 Nissan. C'est la grande différence qu'il y a entre Shabbat et Yom Tov. Yom Tov, il a besoin d'Israël. Sans nous, il n'y a pas de... Sans le clan d'Israël, il n'y a pas de Yom Tov. Certains veulent dire que c'est pour ça qu'à Yom Tov, on peut cuire. On peut faire tout ce qui est nécessaire pour Yom Tov. Parce que c'est pour nous, Yom Tov. C'est grâce à nous qu'il y a Yom Tov. S'il n'y avait pas nous, il n'y aurait pas de Yom Tov. Donc quand on dit « Mekadesh Israël ve'azmanim », vous voyez que quand, comme cette année, Shabbat, Yom Tov tombe Shabbat, on ne dit pas Mekadesh Israël ve Shabbat ve Azmanim. On dit Mekadesh à Shabbat ve Israël ve Azmanim. Parce que Shabbat, ça ne dépend pas d'Israël. Nous, on a une obligation de respecter le Shabbat, mais le Shabbat, il n'a rien à voir avec le clan d'Israël. Ça ne fait pas référence à quelque chose qui concerne le clan d'Israël. Ça concerne l'humanité tout entière. C'est pour ça que je vous ai dit, Rosh Hashanah, c'est un peu particulier. Mais tout ce qui est lié au calendrier, à part Rosh Hashanah, ça n'existe que dans la mesure où il y a un Bet Din qui a sanctifié ça. Et justement, Shabbat, comme on n'y est pour rien, c'est une chose. À Pessah, dans le Korban Pessah, c'est lié avec la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, on n'avait aucun mérite. La sortie d'Égypte, c'est tout ce qu'on appelle, on appelle ça It Aruta de Leila. Et par conséquent, la raison pour laquelle on parle de Pessah en disant Shabbat, Imachorat à Shabbat, c'est parce que Pessah, c'est un peu comme Shabbat. On n'y est pour rien. Les autres Yamim, Shavuot, on a fait un travail. Sukkot, on a fait un travail de Tshuva, c'est le Tshuva après les deuxièmes Luchot, etc. Le Shavuot, on a fait le travail pour aller à Shavuot. Mais à Pessah lui-même, en tout cas le jour de la sortie d'Égypte, à Pessah, on n'y est pour rien. Aussi peu que c'est pratiquement comme Shabbat. Et donc, l'idée, c'est justement que la Sfirat HaOmer, c'est sortir de cette situation. Il faut couper avec cette situation où on n'y est pour rien, si vous voulez, et commencer une construction où on y est pour quelque chose. C'est-à-dire, c'est nous qui construisons petit à petit, chaque jour après, un jour après l'autre, on construit quelque chose qui s'appelle Shavuot, qui d'ailleurs, Shavuot, lui, n'a pas de date dans le calendrier. D'accord? Parce que Shavuot, c'est 50 jours après Pessah, et on ne sait pas, ça peut tomber le 6, le 7, 8, ça dépend si les mois entre Pessah et Shavuot sont pleins ou pas. Alors ça tombera dans le selon le calendrier, ça peut tomber le 6, le 7, le 8, je crois aussi. Mais il n'y a pas de date dans le calendrier. Shavuot, c'est 50 jours après Pessah. Et après, selon que le calendrier, selon que les mois auront plus ou moins de jours, ils seront plus ou moins pleins, disons, si vous voulez, 29 ou 30 jours, alors on aura une autre date dans le calendrier pour les 50 jours après Pessah. Donc, si vous voulez, tout ça, c'est ce qu'on peut dire sur la Sfirat HaOmer. Il y a encore beaucoup de choses à dire, mais on va s'arrêter là.